Sud Radio, parlons IMO.
Parlons IMO avec toute l'équipe de Radio IMO sur Sud Radio, presque toute l'équipe. Grégoire Daricot, bonjour à vous.
Bonjour Jean-Marie.
On embrasse Sylvain Lévy-Valency qui reviendra la semaine prochaine. Bérénice de Villefleuriot qui revient aussi à grands pas avec vous, mon cher Grégoire.
Oui Jean-Marie.
On va faire le tour de l'actualité. On commence par les infos à retenir de la semaine évidemment. On va aussi recevoir votre invité Grégoire.
Oui, on va recevoir Delphine Herman qui est directrice de l'offre et des relations extérieures chez Guy Hockey. On va parler de l'acte d'achat Jean-Marie.
L'acte d'achat, c'est très important. C'est le moment le plus important d'ailleurs, souvent dans la vie d'une famille. Après, bon, évidemment, après les enfants quand même, c'est normal. On va aussi répondre aux questions que nous posent nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On parle de quoi aujourd'hui?
On va parler de la hausse des tarifs de gaz et des factures peut-être un peu salées qui nous attendent alors que l'hiver approche.
Ouais, tarifs de gaz et surtout de chaudières. C'est la TVA sur les nouvelles chaudières qui devrait augmenter. On en parlera. Tour de France
et
aussi.
Tour de France, tout à fait. Là, on fera le tour des biens coup de cœur de la rédaction. On ira à Dijon et à Douai.
Ouais, c'est une belle région, la Bourgogne. Voilà, vous devriez y aller. Exactement. Allez, tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. Toujours avec vous, mon cher Grégoire.
Et politique d'abord, Jean-Marie, avec une mesure choc qui pourrait relancer l'achat des logements neufs. En fait, une mesure pour relancer tout un secteur en difficulté, le secteur du neuf, un secteur en crise alors que l'on estime à 500 000 logements neufs construits par an, à peu près pour répondre aux besoins de logements. Un objectif bien loin des standards actuels, hein, puisque l'on se situe plutôt aux alentours des 286 000 pour l'année 2023, d'après les chiffres de la Fédération française du bâtiment. Et autant le dire tout de suite, 2024 ne s'annonce pas mieux. Conscient de ça, le gouvernement propose d'exonérer les droits de succession et de donation pour l'achat d'un bien immobilier neuf. Une proposition qui pourrait être incluse dans le projet de loi de finances pour 2025 et qui encouragerait les Français à investir dans la construction neuve. Concrètement, ce projet permettrait d'acquérir un bien et de le transmettre à ses enfants sans les taxes habituellement appliquées. L'exonération, elle porterait jusqu'à 150 000 euros par donateur et par donataire. Ouais, c'est pas mal. Et elle pourrait aussi encourager l'acquisition des résidences principales ou l'investissement locatif.
Alors, ce serait quoi concrètement, Grégoire, les effets d'une telle mesure?
Bah, si on revient quelques années en arrière, Jean-Marie, on peut se rappeler d'une initiative similaire qui avait été prise par le gouvernement Balladur. Alors, moi, j'étais à peine né, on était dans les années 90, mais j'étais un peu jeune pour m'en souvenir, mais celle-ci, elle avait permis de relancer un marché en pleine crise. Cette exonération, en fait, elle permettrait à l'État de récolter immédiatement la TVA de 20% sur les logements neufs, tout en reportant la perte de recettes fiscales à long terme. Alors oui, certains craignent un manque à gagner pour les finances publiques au moment de la succession ou lors des donations, mais les promoteurs immobiliers, eux, ils insistent sur l'effet immédiat que cette mesure... C'est une grosse surprise, hein. Oui. Effet immédiat que cette mesure pourra avoir sur la reprise de la construction et la mise à disposition de logements pour les jeunes générations. Dernière précision, il s'agit d'une mesure qui serait temporaire, puisqu'elle ne durerait que 18 mois à partir de son entrée en vigueur en janvier 2025. Quoi qu'il en soit, les discussions sont en cours entre les membres du gouvernement et les parlementaires qui portent cette proposition.
Et bon courage à ceux qui la portent avec le gouvernement qui doit faire quand même beaucoup d'économies. Grégoire, on continue les infos de la semaine à retenir avec une information intéressante pour les primo-accédants, ceux qui achètent leur premier logement, appartement ou maison.
Vous êtes jeune, vous souhaitez investir dans la pierre, et bien je dois vous avertir que vous allez vous faire draguer par les banques.
Ah,
ça y est. De nouveau, alors que la fin de la crise de l'immobilier se profile et que les taux de crédit baissent, les banques se tournent de nouveau vers les potentiels jeunes investisseurs. Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pourrez obtenir des conditions de crédit très intéressantes entre prêt à taux zéro auprès de l'État, prêt à taux zéro de la part de votre banque pour une partie de l'emprunt, durée de prêt allongée. Les banques déroulent enfin le tapis rouge pour les primo-accédants, Jean-Marie. Et là, vous allez me dire, quel intérêt pour les banques finalement? Et c'est simple, c'est un pari sur l'avenir. Après 2 années de hausse des taux d'emprunt et des projets immobiliers gelés, les capacités de financement retrouvées pour les jeunes ménages font que les banques repartent à l'offensive. Elles proposent donc des conditions spécifiques aux primo-accédants, comme un taux bonifié, des prêts accordés aux personnes qui n'ont pas de CDI, ça on l'avait vu il y a quelques semaines, ou encore des plages de remboursement plus longues, puisque cela peut aller jusqu'à 30 ans. Une drague pour espérer les fidéliser durablement et leur vendre d'autres produits.
Exactement. À lire aussi dans la Voix du Nord ce matin chez nos confrères, les pistes de la ministre du Logement Valérie Létard pour sortir de la crise, notamment peut-être voir le calendrier des logements qui ne seront plus louables dans quelques mois. Ça intéressera tout le monde. Évidemment, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. On termine par une info insolite, Grégoire.
Oui, Jean-Marie, cette fois, on va parler d'architecture d'intérieur.
Ah.
Alors, d'après une très sérieuse étude de l'Association des architectes américains publiée outre-Atlantique, le salon et la salle à manger vont progressivement disparaître de nos logements.
Pourquoi ?
Eh bien, la crise du marché de l'immobilier, la croissance de la population et l'évolution de nos modes de vie nous poussent progressivement à repenser l'usage que l'on a de nos logements.
Et on va manger dans quoi? Dans son lit?
Eh bien, justement, les mètres carrés sont de plus en plus chers et nos appartements seront donc de plus en plus petits. Et selon la dernière étude du gouvernement français sur le logement, qui date de 2020, selon le degré d'occupation du logement tel que défini par l'INSEE, 14,5% des personnes de moins de 30 ans et 15,3% des personnes de 30 à 39 ans sont en situation de surpeuplement. Dans ces conditions, les gens allouent le peu d'espace qu'ils ont à la chambre à coucher.
Normal.
Et moins du coup au salon et à la salle à manger.
Donc ça veut dire que le salon et la salle à manger fusionnent, voire la cuisine.
Voilà, disparaissent. Et puis surtout, il y a aussi une évolution de nos modes de vie, hein, soyons clairs. Selon un commentaire sur l'étude relayée dans la presse américaine, la plupart des logements sont aujourd'hui construits pour, je cite, glander en regardant Netflix.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est pas forcément dans le salon ou la salle à manger, c'est plus sur son lit. L'étude va même plus loin. Table et chaises auraient tendance à disparaître de nos espaces de vie. De plus en plus d'habitants se détendent, voire mangent sur le canapé ou le lit. Bref, il ne fait pas bon vivre pour un salon ou une salle à manger. Dernier point quand même historique, Jean-Marie, rappelons tout de même qu'il ne s'agit d'une invention qui est quand même, elle est plutôt récente à l'échelle humaine. Il a fallu attendre le 18e siècle, en effet, pour que le salon ou la salle à manger apparaissent. La société moderne de l'époque met progressivement en place des espaces privés pour partager des moments de convivialité et répondre à une certaine recherche de confort, surtout dans les milieux les plus aisés.
Mais écoutez, c'est pas grave si les moments de convivialité seront dans les lits, hein, plus tard. Écoutez, on va faire contre mauvaise fortune. Bon cœur. On s'adapte, exactement. Merci beaucoup, Grégoire Daricot. Restez avec nous. On vous retrouve dans un instant avec votre invité. On va parler de l'acte d'achat.
Exactement. Est-ce que les Français ont encore envie d'acheter?
Est-ce qu'ils ont encore envie d'acheter? Écoutez, en tout cas, les banquiers ont envie qu'ils aient envie d'acheter quand ils sont jeunes. On verra ça dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, parlons immo.
Avec Grégoire Daricot sur Sud Radio jusqu'à 10h. On parle de votre logement. Vous voulez acheter? Ça tombe très bien. On a quelque chose à vous apprendre avec Grégoire et votre invité.
Oui, bonjour Delphine Herman.
Bonjour Grégoire.
Vous êtes directrice de l'offre de la marque et des relations extérieures du réseau d'agences Guy Hoquet. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Ça me fait très plaisir de vous recevoir, Delphine.
Et ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin.
Un samedi matin, c'est très bien. On va principalement parler de la dernière étude que vous avez publiée avec YouGov, une étude qui fait un focus sur ce que veulent les Français en matière d'achat immobilier. Je crois que c'est important d'abord de rappeler que vous avez un institut, un observatoire au sein de Guy Hoquet pour analyser ce qui se passe sur le marché de l'immobilier.
Exactement, c'est un observatoire qu'on a construit depuis 2 ans sur l'offre, sur les prix et aussi sur les loyers et qui a la spécificité de scanner l'ensemble de l'offre immobilière aussi bien sur les portails d'annonces de professionnels que de particuliers. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir vraiment le pouls à un instant T de ce qui se passe sur le marché pour les vendeurs, les acheteurs, les bailleurs et les locataires.
De vraiment voir quel est le comportement des Français.
Exactement.
Bah justement, ma première question elle est assez simple. Considérant le contexte qu'on connaît, un contexte qu'on a maintes fois expliqué de crise du logement, de crise d'immobilier. Est-ce que le désir d'acheter de l'immobilier est toujours présent, Delphine?
Alors j'ai une bonne nouvelle, oui.
Le désir c'est une chose, pouvoir l'assouvir c'est une autre.
Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, vous avez tout à fait raison. Oui, l'étude qu'on a menée avec l'Institut YouGov, exclusif pour Guy Hoquet, et c'était la deuxième vague là, nous montre bien que parmi les personnes qu'on a interrogées, qui étaient en général des plus de 30 ans, 51% d'entre eux, donc quasiment un Français interrogé sur deux, a l'intention d'acheter un bien immobilier dans les 12 prochains mois. Donc un Français sur deux, c'est quand même un chiffre important. En revanche, on va le nuancer un petit peu, c'est en léger recul par rapport à la même vague et la même question qu'on avait posée au mois de janvier. Alors pourquoi ce recul alors qu'on a le sentiment que les conditions commencent à s'assouplir un petit peu, hein ? D'abord parce que, certes, les taux ont commencé à baisser, mais pas suffisamment par rapport au prix de l'immobilier dans notre pays, qui reste quand même élevé. Or, 71% de ceux qui ont l'intention d'acheter ont aussi l'intention forcément de recourir à un crédit immobilier.
Ouais.
Donc forcément, c'est une contrainte supplémentaire. Et puis les banques, jusqu'à présent, avaient quand même augmenté le souhait d'apport personnel autour des 20, voire 30% selon les profils. Et c'est une contrainte forte, notamment pour les primo-accédants, qui sont en fait qui représentent quasiment un tiers de ceux qui ont l'intention d'acheter dans les 12 prochains mois. Donc bonne nouvelle, vous venez de le dire, a priori les banques essaient d'à nouveau séduire les primo-accédants, donc ça donne de l'espoir pour la suite.
C'est vrai que cette volonté d'achat en fait qui est en baisse, c'est la conséquence de tous les mois précédents que l'on a vécu, les difficultés d'emprunt, les difficultés de financement du logement.
Oui, oui, exactement. C'est, on est quand même dans un marché qui est extrêmement contraint depuis un an et demi, deux ans. Et les Français ont quand même eu de grandes difficultés, en tout cas pour ceux qui avaient l'intention d'acheter, à concrétiser leurs projets, et notamment en premier lieu les primo-accédants.
Alors le Français qui a envie d'acheter, c'est quoi les critères essentiels dans sa prise de décision ?
Alors le premier critère, d'une certaine manière, on vient d'en parler, ça va être le budget et donc le prix d'achat du logement, que ce soit de la maison ou de l'appartement. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces temps un petit peu incertains, parce qu'on sort quand même de plusieurs crises successives. On a eu une crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, on a maintenant quand même le conflit israélo-palestinien qui s'invite aussi très fortement sur notre territoire. En fait, l'immobilier, ça leur permet de préparer leur avenir. Et ce qu'on voit, c'est que ça rassure. Le premier motif pour investir, de ceux qu'on a interrogés dans l'achat immobilier, c'est d'investir pour se constituer un patrimoine. C'est vraiment le premier motif. Donc, et c'était déjà le cas dans la vague précédente. Donc, on voit quand même ce besoin de construire son avenir, de le préparer et de se sécuriser.
D'accord. Et si on les classe dans l'ordre de préférence, justement, tous ces motifs, c'est quoi ?
Bah, après le prix, après la volonté effectivement d'investir pour se constituer un patrimoine, ce qu'on voit, c'est cette envie d'acheter un peu mieux. Alors dans acheter mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire je veux acheter plus grand,
je veux avoir plus
d'espace, je veux plus de lumière, je veux plus de calme et je veux éventuellement un extérieur, un balcon, une terrasse, un jardin. C'est un critère qui a pas mal évolué, y compris en une seule vague, puisqu'on avait fait la première vague au début de l'année 2024. Le deuxième, ça va être l'envie de changer de ville ou de région.
Alors, avec le Covid, j'imagine.
Exactement.
Que ça,
ce sont des restes, si je puis dire, de ces envies d'ailleurs qu'on a eues après la crise sanitaire, soit parce qu'on a une mobilité professionnelle, qui est quand même un motif de déménagement et de transaction important. Et puis, le dernier point, et non des moindres, c'est investir pour mettre en location. Et là aussi, c'est en progression par rapport au mois de janvier. Oui, ça existe encore. C'est le troisième motif. Et puis, c'est important de le rappeler, je trouve, notamment en ce moment, et y compris parce qu'il y a des sujets fiscaux sur l'investissement locatif, c'est qu'en réalité, 65% du parc locatif en France, il est détenu par des propriétaires privés. Et quand on parle de propriétaires privés, je ne parle pas de foncières et de personnes extrêmement riches, mais je parle de monsieur et madame tout le monde qui s'endettent pour essayer justement de se créer un patrimoine pour plus tard, pour la retraite, et qui contribuent à loger les Français.
Vous avez parlé d'évolution. Est-ce que aujourd'hui, quand on veut acheter un logement, on doit se préparer à faire des concessions ?
Alors malheureusement, oui. Oui, notamment à cause des prix de l'immobilier, qui même si depuis un an et demi, deux ans, ont quand même se sont réajustés et plutôt à la baisse, ils restent quand même élevés, c'est le premier point. Et ça reste évidemment le critère le plus important dans un achat immobilier pour les Français. Donc, il y a deux concessions majeures et qui sont les deux concessions qui ont le plus d'impact sur le prix du logement. La première, ça va être l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai ce souhait, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai un désir d'extérieur, de jardin, de terrasse, mais est-ce que je vais pouvoir l'assouvir ? Pas forcément, à cause du budget. Et le deuxième, bien entendu, ça va être la superficie. Puisque si j'enlève quelques mètres carrés, notamment dans les grandes villes où le prix au mètre carré est élevé, évidemment, je vais accéder plus facilement à la concrétisation de mon achat.
Quelle est la tranche de la population chez qui ce désir d'achat, il est le plus fort ?
Alors, on a un fort désir d'achat d'abord chez les gens qui sont locataires, donc pour un premier achat, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, alors ça peut paraître peut-être cliché, mais là, l'étude nous le certifie, si je puis dire. On voit que parmi les gens qui ont envie d'acheter, on a une surreprésentation des 35-44 ans, souvent en couple et foyer de trois personnes, donc avec un enfant, donc qui ont envie, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, de sécuriser son foyer, d'abord à court terme et potentiellement à long terme, et souvent dans des villes de plus de 100 000 habitants.
Ok.
Voilà.
Okay. Et ça, c'est important aussi, justement. On peut parler aussi de ce que dit Valérie Létard ce matin dans le journal La Voix du Nord. Elle parle notamment, elle est plutôt ouverte à l'idée d'étendre le prêt à taux zéro aux maisons individuelles, à condition que ce soit quand même en dehors des zones hyperurbaines et que ce soit pas des trop grosses maisons. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste ?
C'est une bonne piste si et seulement si ça correspond aux envies des Français. C'est-à-dire que C'est ce qui nous manque de toute façon, c'est un plan de logement à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que si c'est dans ce genre de logement et dans ce genre d'endroit que les Français ont envie d'aller habiter, oui. Mais si l'idée...
On connaît pas beaucoup de Français qu'on a envoyé vivre dans une maison individuelle et qui voulaient pas y aller en général.
Sur la maison individuelle, je suis d'accord avec vous, et ça reste le souhait idéal de tous les Français, bien sûr. En revanche, vous avez précisé que vous parliez de maisons individuelles, mais plutôt dans des territoires, on va dire, reculés. Mmh. Or, les Français, où est-ce qu'ils vont aller habiter? Là où il y a de l'emploi, là où il y a de l'économie, là où il y a des transports, là où il y a des services publics.
Et là où il n'y a plus de place pour en construire.
Exactement. C'est voilà. Ça. Donc, à nuancer.
À nuancer. Grégoire Daricot.
Finalement, en fait, le désir, il doit être aussi considéré par les politiques pour mener à bien leur stratégie, leur politique. Il faut qu'ils écoutent le désir des Français, c'est important.
Oui, bien sûr, il faut qu'ils écoutent le désir des Français, les possibilités des Français aussi. Et c'est pas construire pour construire. Vous le disiez tout à l'heure, c'est important de se dire qu'on a besoin de 500 000 logements neufs chaque année. Mais où est-ce qu'on en a besoin et où est-ce qu'ils souhaitent habiter?
Et autre aspect qui est abordé par la ministre ce matin dans La Voix du Nord, le calendrier, à partir de quand les logements classés G dans le diagnostic de performance énergétique deviendront des logements indécents techniquement? Normalement, c'est le 1er janvier prochain.
Et c'est bientôt ça. Hein.
La ministre confirme qu'elle essaye d'adapter le calendrier, notamment pour les copropriétés. C'est celles qui souffrent le plus. Pourquoi d'ailleurs c'est les copros qui souffrent le plus du calendrier? C'est celles qui ont le plus de difficultés à changer des chaudières?
C'est celles qui ont le plus de difficultés à financer, déjà, parce que ça nécessite des travaux très importants, donc à financer la rénovation énergétique, et aujourd'hui, on manque de dispositifs financiers pour les aider. Mm-hmm. Il n'existe quasiment rien. Je crois qu'il y a deux banques qui proposent des prêts sur la rénovation énergétique pour les copropriétés. Et puis, il y a un temps de la décision dans la copropriété qui n'est pas du tout le même temps que le temps du calendrier actuel. C'est-à-dire qu'il faut convoquer des AG, il y a un règlement, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, il faut que tout le monde soit d'accord, en tout cas une majorité. Il faut étudier aussi la structure de l'immeuble, voir ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Il y a des contraintes parfois aussi architecturales, extérieures bien sûr. On ne peut pas isoler tous les bâtiments par l'extérieur. Enfin, et aujourd'hui, on a aussi ce manque cruel d'entreprises reconnues garantes de l'environnement, RGE, qui sont au nombre d'à peu près 60 000, alors qu'il en faudrait au moins 200 000 pour pouvoir atteindre les objectifs dans le calendrier actuel.
Exactement, à supposer qu'on arrive à le tenir, mais c'est mal parti à ce point. Titre-là, l'une des victimes du budget qui était très attendu de 2025 proposé par le gouvernement, c'est le fonds pour MaPrimeRénov', les aides de l'État pour la rénovation énergétique de votre logement. Alors le gouvernement se défend en disant oui, on a baissé le fonds, sauf qu'on l'a baissé au niveau de ce qui était consommé réellement par les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était trop compliqué de les toucher, ces aides, en fait?
Alors, le parcours, malgré la mise en place de mon accompagnateur Rénov', le parcours est quand même extrêmement compliqué. Le niveau d'information des Français n'est pas non plus exactement comme on aimerait qu'il soit, même si, alors là, pour le coup, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on a ce rôle de conseil et d'information, et on l'exerce, et donc on forme nos collaborateurs à ça. Maintenant, il y a un petit tour de passe-passe intéressant dans la déclaration qui a été faite. On a eu le sentiment qu'on ajoutait 900 milliards. Oui, alors on les ajoute par rapport à 2023, mais en fait, on les enlève par rapport à ce qui avait été annoncé.
Oui, comment voulez-vous vous y retrouver, effectivement. Dernier point, on rappelle ce conseil qui a été donné par notre invité ce matin sur Sud Radio, Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs, la CLCV. Si vous avez une chaudière à changer dans plusieurs mois, faites-le plutôt dans plusieurs semaines. La TVA va passer de 5% à 20% sur un produit qui coûte plusieurs milliers d'euros. C'est considérable comme augmentation, donc dépêchez-vous de changer votre chaudière, trouvez de la trésorerie s'il le faut. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous d'ailleurs.
Avec plaisir.
Parce que je pense que Guy Hoquet a deux ou trois biens à nous proposer. On va faire un tour de France des biens à acheter un peu partout. À suivre, Grégoire Daricot, ça vous concerne l'immobilier. Les messages laissés par nos auditeurs sur le 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio, on va parler de quoi?
De la hausse des tarifs de gaz, Jean-Marie.
À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons Immo.
On parle de votre logement avec toute l'équipe de Radio Immo sur Sud Radio jusqu'à 10h. Comme chaque samedi, Grégoire Daricot, toujours fidèle au poste.
Exactement, Jean-Marie.
Je vous propose qu'on écoute nos messages et surtout, tiens, qu'on réponde à nos auditeurs.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons Immo, ça vous concerne.
Bah bien sûr que le logement, ça vous concerne. On espère que vous en avez tous un si vous nous écoutez sur Sud Radio. 0826 300 300, de nombreux messages ont été laissés cette semaine sur Sud Radio, sur le répondeur. Des questions qui portent notamment sur la facture du gaz.
Exactement,
Grégoire, ce
Jean-Marie.
Matin.
Cette semaine, c'est Stéphanie Dumont qui se pose des questions sur sa facture de gaz. Alors, elle en a marre de l'avoir augmentée. Hein. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Elle aimerait savoir si le prix du gaz va continuer à augmenter et si nous avons des conseils pour faire baisser ses factures alors que l'hiver approche et que c'est peut-être la pire période pour la facture de gaz. Moi, j'ai décidé de faire appel à un expert, Vincent Marcola, qui est chef de produit chez Rockwool, spécialiste des systèmes d'isolation. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup de répondre à nos questions, Vincent. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être présenter Rockwool en quelques mots?
Bien sûr. Alors, merci pour votre invitation, déjà. Donc, Rockwool est une société qui fabrique des produits isolants en laine de roche, donc à partir d'une matière première naturelle, qui est le basalte. Rockwool est leader mondial avec une présence en France depuis plus de 45 ans, 1978 pour être précis. Société qui compte 800 employés, dont une bonne partie dans notre usine qui est située en Auvergne.
Bon, une belle boîte, et en Auvergne en plus.
Oh, c'est magnifique. Bah,
écoutez, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes ici chez vous.
Bon, Vincent, qu'est-ce qu'il en est de cette augmentation des prix du gaz ?
Ben, c'est une vraie réalité, hein, et un vrai enjeu pour les ménages. En fait, on a constaté donc depuis la fin des tarifs réglementés en juillet l'année dernière, on va dire une certaine volatilité des prix. Alors, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, hein, selon le cycle, mais clairement sur le long terme, on est sur une tendance haussière. Voilà, à titre d'exemple, sur le mois de juillet, on a connu un plus 11%. Et là, sur octobre, on est parti entre plus 5 et plus 7%. Donc, voilà, l'enjeu financier, il est clair.
Donc, faut qu'on s'attende à des factures salées cet hiver.
C'est sûr.
Ouais. Malheureusement. Vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour limiter la consommation de gaz dans notre foyer ?
Bon, alors il y a des conseils qui sont relativement simples, hein, je dirais les conseils d'entretien du matériel de chauffage existant, l'installation d'un programmateur, voilà, ce genre de petits gestes.
C'est quoi les conseils d'entretien ? Il faut qu'on attende de voir qu'il y a un radiateur par exemple à purger ou ce genre de choses, ou il faut au contraire faire une visite très régulièrement ?
Alors, je pense que c'est plutôt effectivement de la visite. La plupart des marques proposent des contrats annuels qui permettent de faire ce genre de visite, et c'est assez important, je pense.
Ouais, donc c'est plutôt.
En revanche, ouais.
Alors que l'hiver approche, il faut qu'on se dise OK, tout va redémarrer, donc on fait une visite de contrôle.
Absolument, ouais, absolument. En revanche, je voudrais souligner quelque chose, c'est avant d'envisager effectivement de changer de matériel et d'investir vraiment de fortes sommes dans un matériel plus performant, ce qu'on veut dire nous, c'est que avoir un logement bien isolé, c'est très important.
Oui, oui.
Je vous donne un exemple, hein, si vous voulez changer par exemple votre système de chauffage, mettre une pompe à chaleur, ce genre d'équipement qui peuvent être coûteux, vous allez investir en fait dans un matériel qui va être surdimensionné, qui va sans arrêt devoir compenser les déperditions énergétiques du logement. Donc c'est pas forcément une bonne idée de faire ça.
On n'est plus dans les années 70, ça on l'a bien compris.
Exactement.
Donc ça veut dire que l'isolation, concrètement, si je résume, dans ma maison, déjà, je bannis tout ce qui n'est pas en double vitrage, on est d'accord ?
Oui, clairement.
Premier point. Deuxième point, où est-ce qu'on perd le plus de chaleur dans une maison ? Qu'est-ce qui fait qu'on voit que la chaleur s'échappe ? C'est la cheminée ?
Non, c'est pas la cheminée. Alors, le constat, il est finalement assez simple. Donc la toiture en premier. La toiture, c'est 25 à 30% de déperdition énergétique.
Comment
donc,
ça là, s'explique parle,
C'est la surface la plus importante qui est exposée à l'extérieur, avec également l'enveloppe, donc les murs extérieurs. Donc là, on parle d'isoler des combles perdus, par exemple, d'isoler des combles aménagés.
Ouais.
Donc là, vous allez déjà couvrir à peu près 30% de déperdition.
Donc ça n'a rien à voir avec le toit, en fait. C'est ce qui est sous le toit, on est d'accord ? Que vous soyez en ardoise ou en tuile, ça change rien. C'est ce que vous mettez en dessous.
Oui, bah, vous pouvez isoler effectivement tout type de couverture.
Et c'est par ça qu'on doit commencer ?
Tout à fait. Alors ensuite, je parlais des murs. Donc là, on est sur les murs périphériques, hein, qui donnent sur l'extérieur.
Ouais.
Donc là, on parle d'isolation par l'extérieur. Et c'est vrai que c'est des gestes à la fois simples, qui peuvent être rapides à réaliser et qui sont surtout sans contrainte, puisque vous pouvez rester habiter chez vous. Il n'y a pas de contrainte chantier en fait quand vous isolez par l'extérieur. Donc c'est assez intéressant.
Mais ça veut dire que vous rajoutez une peau ou alors un crépi supplémentaire à la maison. C'est quand même des travaux lourds, non ?
Ça peut être lourd en termes d'investissement. En revanche, vous avez des aides qui peuvent financer tout ça.
Ouais.
Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être financé. Donc ça, c'est à peu près 20% des déperditions. Et ensuite, vous avez des opérations comme le plancher, par exemple, le plancher bas de cave. Vous pouvez isoler également assez simplement ce genre de poste.
Vous avez mentionné les aides, Vincent. Quelles sont-elles ?
Alors, on a les aides classiques, MaPrimeRénov, les certificats d'économie d'énergie. Donc, évidemment, tout ça va dépendre de là où vous habitez, votre catégorie de revenus. Vous avez également des financements type prêt à taux zéro ou des TVA réduites à 5,5. Ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Ça change assez souvent. Je vous invite à aller voir sur Internet, également sur le site rockwool.fr On a un
simulateur.
Ça, très bien.
Voilà, un tutoriel, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est un maquis très complet, très compliqué, hein, les aides, évidemment. J'ai une autre question en termes d'isolation, Vincent Marcola. Si je suis dans un logement au rez-de-chaussée, que j'ai pas de cave, mais en même temps, j'ai pas non plus de vide sanitaire, ça arrive assez souvent, notamment dans les vieilles maisons en centre-ville. Souvent, c'est plus humide. Comment je fais pour isoler le sol?
Alors, vous pouvez isoler le sol, par l'intérieur, c'est pas forcément très simple parce que vous allez devoir enlever le parquet ou les carreaux.
Est-ce qu'il y a une déperdition? Oui, et si j'en ai pas justement, parce que vous avez une déperdition de chaleur aussi par le sol en théorie.
Par le sol, on estime. C'est l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique qui estime ça, c'est environ 10%.
Et puis on a les pieds dessus, donc on le sent vite en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Souvent je perds mes pantoufles, donc je le ressens très vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Jean-Marie en charentaise.
Exactement, bah écoutez, je vais m'acheter des pantoufles en attendant de faire des travaux plus lourds et de faire une nouvelle cave, hein. On va faire ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage, Vincent Marcola. Écoutez, on vous retrouvera une prochaine fois. Je rappelle que vous êtes chef de produit chez Rockwool, Wool comme la laine. Il est 9h52 sur Sud Radio. Tout de suite, le Tour de France.
Sud Radio, parlons immo. Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Bon, tout de suite, on change de vie. Grégoire Daricot, vous m'emmenez où pour acheter?
Allez, pour ce premier bien, Jean-Marie, je vous emmène dans la ville où est né le kir, cette boisson alcoolisée qu'il faut consommer avec modération.
Auxerre ou Dijon?
Pas Auxerre, vous allez voir. C'est imaginé par l'ancien maire de la ville de Dijon, effectivement, Félix-Adrien Kir. Alors, ce monsieur était chanoine, prêtre, maire et ancien député de la Côte d'Or entre 1945 et 1967. Et il avait l'habitude de servir à ses invités à la mairie, dans un verre ballon, un peu de crème de cassis, spécialité locale, et du vin blanc à ligoter. Exactement. Lorsqu'il revêtait sa casquette de député, il en servait à ses confrères, contribuant ainsi à la renommée de sa ville et de la boisson.
Mais il gardait sa calotte, puisqu'il était chanoine. C'était une autre époque.
Effectivement. Et donc moi, à Dijon, je vous ai trouvé, rien à voir avec le kir, mais une maison du XXe siècle, située à l'ouest de la ville. Une maison qui allie charme, historique et gros potentiel de modernisation. Cette maison, elle a une superficie généreuse, avec une surface habitable de 171 mètres carrés sur 4 niveaux et sur un terrain de 978 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée accueillante, un salon spacieux parfait pour des moments en famille, une salle à manger conviviale et une cuisine fonctionnelle avec arrière-cuisine. Au premier étage, un palier qui dessert 3 chambres confortables et une salle de bain. On va dire que c'est l'étage des enfants parce qu'en fait, au deuxième étage, vous trouverez un espace aménagé sous les combles, idéal pour créer une grande chambre supplémentaire. Une maison très bien située dans un quartier agréable et prisé, une opportunité rare sur le marché, proposée par EXP France au tarif de 449 500 euros.
Vous avez vu comment il se fait passer pour un jeune? Je vous ai trouvé une maison du XXe siècle. On a l'impression qu'il vous emmène au Moyen-Âge.
Alors, il vous emmène au Moyen-Âge. En revanche, Grégoire, si un jour vous cherchez à vous reconvertir professionnellement, on vous embauche.
Ah, c'est gentil, merci.
Ça, c'est bien. Continuez. Continuez, Grégoire. Autre région?
Alors, autre région, Jean-Marie, on va plutôt vers le nord et la ville de Douai. Alors, j'ai voulu aller à Lens parce que la Saint-Etienne reçoit Lens ce
c'est
week-end.
C'est très gentil. Voilà,
j'ai voulu penser à vous, Jean-Marie. Sauf que j'ai voulu faire plaisir à notre invité, donc j'ai recherché un bien Guy Hoquet. Là, on va à Douai et son beffroi, qui abrite l'un des plus complets et étendus carillons de France avec 62 cloches. Et le beffroi de Douai, sur lequel, pour la petite histoire, Danny Boone a appris à jouer pour son film Bienvenue chez les Ch'tis.
En toute logique.
Donc cette fois, c'est une maison de 100 mètres carrés que je vous ai trouvée, une maison semi-individuelle bâtie sur un terrain de 200 mètres carrés. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour donnant accès à une belle véranda chauffée et une cuisine aménagée.
Dans cette région, je suppose que la maison est en brique.
Oui, et c'est évidemment. Oui, tout à fait.
C'est le charme du Nord.
Et on espère bien isolé, vu ce qu'on a vu avec Vincent. Au premier étage, vous avez un palier qui dessert 3 chambres, un bureau et une salle de bain. Et petit plus, elle possède son garage et un deuxième véhicule peut être stationné dans l'allée. À noter que le jardin est sans visage. Vie entièrement clos et arboré, un vrai plus en période estivale, c'est-à-dire pas du tout en ce moment, mais une maison quand même très sympa proposée au tarif de 190 000 euros par une agence non moins sympa, Guy Hoquet.
Oui, ça c'est très bien, effectivement. Vous avez un plan de financement sur celle-ci?
Oui, avec un apport de 20%, Jean-Marie, donc 38 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 3,7%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 900 euros par mois.
Bon, ça c'est pas mal, merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. C'est la fin de cette émission. Bon, Parlons Immo revient samedi prochain, on est d'accord. L'émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Immo. On dit à bientôt, on embrasse Sylvain Lévy-Valency qui n'était pas là aujourd'hui. On lui souhaite de bonnes fêtes à Sylvain Lévy et puis qu'il sache que nous aussi, on lui pardonne tout.
Radio. Parlons Immo.